Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'original. Radio. Du Trisac. Votre plaisir coupable.
Cube Radio.
Mercredi 23 septembre 2020. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On a une grosse émission à vous présenter jusqu'à 13h cet après-midi. Puis on va y aller drette là pour ne pas faire attendre notre invité. On le sait, la province du Québec, Antoine Robitaille doit grincer des dents quand je dis ça, a été la plus frappée de toutes les provinces canadiennes. On est rendu autour de 68 600 cas de COVID-19. Et là, on veut savoir d'où ça vient. Et il y a l'Institut national de santé publique du Québec et le Centre de génomique de l'Université McGill qui ont fait une étude à ce sujet-là. On a avec nous la responsable de la génomique de la bioinformatique au Laboratoire de santé publique du Québec, Sandrine Moreira. Madame Moreira, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, expliquez-nous le but de l'étude avant qu'on en donne les résultats.
Oui, le but, c'est un peu ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire que à partir des données des premiers patients de l'épidémie, la question qu'on s'est posée, c'est d'où venaient les introductions qu'on a observées au Québec. Puis évidemment, on pouvait avoir plusieurs hypothèses sur l'origine des virus qu'on a observés au début de l'épidémie. Il aurait pu très bien y avoir une personne qui aurait été à l'origine de l'ensemble de l'épidémie, ça aurait pu être une hypothèse, ou bien on aurait pu observer plusieurs introductions. Et ce que notre étude démontre, c'est que ce qu'on a observé, c'est plutôt le scénario avec plusieurs introductions, beaucoup d'introductions, et en particulier liées à la semaine de relâche.
OK, donc, Mme Moreira, il n'y a pas de patient zéro, là. C'est pas, il n'y a pas une seule personne qui est à l'origine des éclosions à travers le Québec.
Non, en fait, on pourrait dire qu'il y a plusieurs patients zéro au niveau de l'épidémie au Québec. Donc, on a eu plusieurs voyageurs qui sont revenus avec des séquences, avec des virus d'autres pays. Et ces voyageurs-là ont conduit finalement à l'émergence de l'épidémie, à l'émergence de la majorité des cas qu'on observe aujourd'hui.
Et pourquoi l'étude porte du 25 février au 1er avril?
Pourquoi au 1er avril? Alors la raison derrière ces dates-là, c'est parce qu'on a voulu prendre toute la période qui va du premier cas, qui est daté du 25 février, jusqu'à 15 jours après la fermeture des frontières. Puis la fermeture des frontières a été officiellement annoncée le 16 mars. Donc 15 jours après, ça fait à peu près au 1er avril. Donc on a échantillonné des données sur toute cette période-là pour être sûr d'attraper le plus possible d'imports internationaux.
Donc, votre étude, Mme Moreira, confirme que la semaine de relâche et ce qu'on appelle les snowbirds là, ont contribué grandement à la propagation de ce coronavirus.
Mais en tout cas, ça a contribué à l'introduction de souches au Québec, effectivement. C'est-à-dire que quand les voyageurs sont partis, ils sont revenus avec dans leur bagage. Autre chose que des souvenirs, donc ils ont importé avec eux plusieurs virus qui venaient de différents pays. Ouais. Okay. Et ça a été probablement un facteur déterminant dans l'épidémie. Il y en a eu d'autres, évidemment, mais ça a été un facteur important.
OK, je suis allé voir sur votre page, là, puis faut quand même être capable de comprendre ce que vous présentez comme étude. Expliquez-moi une chose, d'abord la phylogénie, ça consiste en quoi?
La phylogénie, ça consiste à reconstruire l'histoire des virus, la généalogie des virus, comment ils se sont propagés. Et en fait, la façon dont on procède, c'est que pour chacun des patients, on va réussir à extraire l'information génétique des virus. Et l'information génétique des virus, elle n'est pas identique pour tous les virus. En fait, il peut survenir aléatoirement, au hasard, des mutations dans les virus. Et donc, moi, si j'ai une souche, puisque je vous la transmets à vous, peut-être que vous allez avoir une petite modification. Puis vous, si vous la transmettez à quelqu'un d'autre, bah, peut-être une autre petite modification va s'ajouter.
Ah oui.
Et en comparant ma version, la séquence génétique de mon virus, la vôtre, puis celle de la personne à laquelle vous avez transmis, bah, on est capable de dire, bah, voilà, ça s'est passé comme ça. Donc, Madame Moreira l'a passé à M. Dutrisac, qui l'a passé, etc., etc. Donc, on est capable de reconstruire cette histoire-là.
Est-ce que ça veut dire que le virus qui est arrivé au Québec, là, autour du 25 février, là, le premier cas répertorié, n'est plus tout à fait le même virus qu'on connaît aujourd'hui?
Absolument. Donc, les virus sont en évolution constante. Donc, il y a des modifications au hasard qui arrivent au niveau du virus. Puis c'est d'ailleurs le cas chez tous les êtres vivants. Il y a des mutations les humains aussi échappent pas à cette règle-là. Donc il y a des modifications qui surviennent un peu au hasard. Au niveau du virus, ça se traduit pas nécessairement par un changement, par exemple, de la gravité du virus ou la contagiosité du virus. Pas nécessairement. Ça peut être des changements qui sont silencieux, mais c'est des changements qui sont d'une importance cruciale pour mon travail, parce que c'est ça qui va me permettre de retracer d'où vient le virus. Puis du coup, quand vous allez en vacances en Italie, puis que vous ramenez une souche d'Italie, bah, cette signature particulière, donc si les chercheurs italiens ont également produit la séquence génétique du virus italien, d'une version du virus italien, ben moi, en comparant la séquence du voyageur qui revient d'Italie à la séquence italienne, je peux dire, ah, bah, il est fort probable que ces deux virus-là, ben, il y ait une origine commune.
Eh boy, donc, toutes ces modifications-là, en Moreira, ça veut dire que ça complique la tâche des scientifiques pour trouver un vaccin?
Ben oui et non, parce que, comme je vous l'ai dit, donc il y a certaines modifications qui sont silencieuses, puis dans le sens où ça ne va pas nécessairement se traduire par un effet sur le virus. Okay. Donc, il y a des changements qui arrivent puis qui vont pas avoir d'impact du tout. Au niveau du vaccin, donc le vaccin cible différentes parties du virus. Puis là, je vais pas m'avancer là-dessus puisque c'est pas mon domaine d'expertise. Mais ça va pas nécessairement influer. Ceci dit, vous soulignez très important parce que c'est important de faire de la surveillance sur ces variants-là parce qu'il pourrait y en avoir qui ont une influence. Donc, c'est très important de faire de la surveillance de tous ces variants qui circulent pour être sûr que si jamais il y en a un qui arrive, qui est problématique pour le vaccin, bah, on soit capable d'alerter rapidement là-dessus.
Donc, c'est l'utilité de cette étude-là, de préciser l'origine. Et si je comprends bien, le virus qui aurait démarré l'épidémie au Québec, vous avez déterminé que une souche du coronavirus sur trois provenait d'Europe.
Oui, c'est ça à peu près. Donc, les contributions principales, c'est d'Europe. Donc, une bonne partie des virus sont venus d'Europe, sont venus des États-Unis aussi et d'Amérique au sens large.
Ouais. OK, mais donc, aucune souche qui origine directement de la Chine?
Oui, c'est ça. En fait, nous, on a eu les transmissions secondaires. Donc, c'est quelque chose que je souligne. Une autre étude ne me remet pas du tout en question le fait qu'il y ait une origine unique chinoise à l'ensemble des virus. Donc, ça reste toujours vrai. Mais il y a eu des transmissions secondaires qui ont donné lieu à d'autres transmissions. Puis, c'est celle-là qu'on a observée.
Donc, en conclusion, Mme Moreira, cette étude-là, concrètement, va servir à quoi?
Un point important de cette étude, c'est que ça a permis de confirmer les hypothèses qui avaient été émises par la santé publique en se basant sur les informations épidémiologiques. On avait cette impression-là que probablement la semaine de relâche avait été importante, mais on ne savait pas à quel point ça avait été important. avec l'étude phylogénétique, on apporte la preuve, finalement, une preuve scientifique que, effectivement, cette hypothèse, on valide cette hypothèse-là, ce qui est quand même important de savoir, finalement, de vérifier nos hypothèses. Et puis également, quelque chose d'assez intéressant, c'est que ça nous a permis d'identifier également quel variant circulait au Québec. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être important pour la suite. Donc vous l'avez souligné, par exemple, pour les vaccins, et puis pour détecter s'il y a des souches qui deviennent plus contagieuses, plus virulentes.
OK, donc on peut faire le suivi. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Madame Moreira, bonne chance. Elle est du Laboratoire de santé publique du Québec et ça confirme ce qu'on prétendait à l'origine. La semaine de relâche et les snowbirds étaient à l'origine essentiellement de ces éclosions au Québec de cette COVID-19. Est-ce que vous allez continuer l'analyse de l'évolution du virus ou c'est terminé?
Oui, on va continuer, bien sûr, on va continuer nos analyses. Donc, nos analyses font partie d'un grand projet canadien. Donc, le Québec fait partie de ce projet-là où on séquence donc une proportion des souches circulantes au Québec et au Canada. Ça, c'est très important pour les investigations d'éclosion, par exemple. Donc, on intervient également à ce niveau-là pour, dans les éclosions, déterminer combien de portes d'entrée sont arrivées les virus, et puis regarder également les virus circulants et faire des analyses au niveau canadien des différents variants qui existent.
Très bien, Madame Moreira, merci d'avoir pris le temps de nous parler.
C'est avec plaisir.
Merci, au revoir.